Passons à l'Est sur RCN.
Bonjour Elfenoul, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis midi sur RCN pour Complètement à l'Est. D'ailleurs, notre émission est en rediffusion tous les dimanches à 14h sur RCN. N'hésitez pas à vous brancher pour écouter l'émission pour être sûr de n'avoir manqué aucune information. Aujourd'hui, pas de micro-trottoir, mais c'est tout comme car nous partirons à la découverte de la ludothèque Saint-Nicolas, au premier étage du centre commercial Saint-Sébastien à Nancy. Et nous demanderons aussi aux personnes présentes leur avis sur la ludothèque. Pour notre invité de la semaine, nous recevrons Christelle Marchal, chargée de recrutement au Mercato de l'Emploi, qui vient nous faire découvrir son parcours et son métier. Et pour commencer, on se rend au village de la prévention cancer, qui s'est déroulé le 17 avril, parc de la Pépinière à Nancy. Nous nous y rendrons pour découvrir cet événement et présenter quelques partenaires associatifs et institutionnels, comme le CHRU de Nancy, Cancer Hérédité et plein d'autres partenaires.
RCN, complètement à l'Est, Elfenoul.
Du départ d'un constat qu'on a fait avec la CPAM, Ville de Nancy et la CPAM, qu'il y a beaucoup d'événements qui sont portés par Octobre Rose, Mars Bleu et qui sont très connus du grand public. Mais on voulait faire quelque chose d'un petit peu plus fédérateur, un petit peu plus commun et de parler de prévention au niveau du cancer. Donc on s'est dit pourquoi pas proposer à nos partenaires, alors qui sont le CHRU, l'ICL, les partenaires associatifs bien évidemment, de monter avec nous un village de la prévention cancer, axé autour du grand public, pour un petit peu démocratiser, voir ce qui est possible de faire, prévenir avant l'apparition des signes d'un cancer et d'avoir un côté un peu positif sur cette vision qu'on peut avoir de cette maladie qui est quand même souvent très très mal perçue, et alors qu'on ne meurt pas systématiquement d'un cancer. Voilà. Heureusement, on le soigne et surtout, on peut le prévenir.
D'accord.
Que dire de plus ? Donc ça a été un montage de dossiers sur une petite année. Au départ, on prévoyait de faire ça au mois de septembre, mais ça a été un petit peu juste. Donc le mois d'avril s'est imposé à nous parce que c'est encore la période où il n'y a pas encore trop de gros événements au niveau du calendrier et où le temps commence à être un petit peu plus agréable. Donc l'idée aussi, c'était de le faire en extérieur pour pouvoir toucher un maximum de grand public. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, on n'a pas eu forcément énormément de chance au niveau du temps avec la météo, effectivement. Mais on est quand même très content parce que là, à première vue, on est à peu près 400 participants au niveau donc grand public et surtout scolaires qui ont été invités à découvrir ce village de la prévention cancer, avec a priori plutôt des très bons retours, que ce soit au point de vue des partenaires qui sont contents de se retrouver aussi autour de ce village et de pouvoir échanger entre eux au niveau des pratiques qu'ils ont au quotidien, et puis du grand public et des scolaires qui sont aussi content de pouvoir répondre à des questions, d'avoir directement accès à un médecin sur des questions qui peuvent être pas forcément connues, et notamment au niveau il y a l'oncopédiatrie qui est dans un des stands, donc c'est quand même des cancers aussi qui sont très spécifiques, le cancer du pancréas aussi qui nécessite quand même qu'on fasse un petit peu attention à lui et qu'il soit de plus en plus connu du grand public parce qu'il y a une exponentialité qui arrive de plus en plus, on découvre de plus en plus de cancers du pancréas. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour se prévenir, qu'est-ce qu'on met en place comme action pour éviter au maximum. Après, il ne faut pas non plus que ce soit culpabilisant. On fait ce qu'on peut, mais effectivement, on connaît tous un petit peu près les bons gestes, éviter de fumer, faire attention au soleil, attention à son alimentation, faire de l'activité physique, mais ça c'est toujours intéressant de faire une petite piqûre de rappel et de voir les nouveautés aussi qui arrivent de plus en plus au niveau des traitements.
Et si jamais on souhaite avoir plus d'informations, où est-ce qu'on peut se rendre?
Alors évidemment, je vais vous parler de nos partenaires principaux qui sont le CHRU et l'ICL, qui sont vraiment deux institutions dans le domaine de pointe. Donc clairement, pour répondre à des questions, en tout cas d'ordre médical, je vous adresserai là. Pour tout ce qui est soutien et pareil, questions peut-être un peu plus personnelles, un peu plus familiales, se tourner vers les associations, comme par exemple les associations Symphonie qui travaillent autour du cancer du sein, ou comme les associations des usagers. Là, je suis à côté d'un stand très très intéressant, France Assos Santé, pas facile à dire. Très intéressant sur les droits des usagers. Donc voilà à peu près les réponses qui peuvent être apportées sur le village et bien sûr sur le long terme, s'il y a des questions en dehors de cette journée, bien sûr.
Merci beaucoup.
Alors, on est donc l'équipe d'ORL du CHRU de Nancy. On participe à cette manifestation aujourd'hui qui est une action de prévention envers les cancers ORL, notamment auprès des plus jeunes, donc des lycéens, qui sont venus aujourd'hui pour avoir des informations justement sur les différents facteurs de risque. On insiste notamment sur le fait que le cancer ORL n'est pas uniquement lié au tabac, mais également à un virus qui s'appelle le papillomavirus, qui est le même que celui qui concerne le col de l'utérus.
Oui, les facteurs de risque qui étaient connus jusqu'à maintenant, c'était bien entendu le tabagisme et l'alcoolisme. Souvent, les deux étaient liés. Et on sait depuis maintenant une quinzaine d'années que papillomavirus est impliqué sur le développement des cancers qui intéressent le fond de la bouche, ce qu'on appelle l'oropharynx, le fond de la gorge, la langue arrière, les amygdales. Et que, bien entendu, sur ces différents stands, on a pour objectif de faire de la prévention, d'où des stands qui disent que le tabac, il faut lutter contre, l'alcool également. Mais là, pour notre stand, outre ces deux facteurs de risque-là, la vaccination contre papillomavirus est importante puisqu'on sait par des études qui ont précédé les études ORL que les cancers du col de l'utérus liés au même papillomavirus sont en train de disparaître, d'être éradiqués, notamment en Australie, et que c'est le même virus qui est en cause dans les cancers ORL. Donc Par analogie, les cancers ORL du fond de la gorge qui sont en train d'exploser dans beaucoup de pays, on a un moyen efficace de lutter contre en faisant ces actions de prévention et de vaccination, bien entendu, derrière.
Et ce, à condition que la vaccination soit tôt, en fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle est recommandée globalement à l'adolescence,
okay. avant les premières relations sexuelles,
avant l'exposition au papillomavirus, justement.
Il y a beaucoup de documentation écrite ou internet que l'on peut trouver. On tape cancer, ORL et papillomavirus, on a des informations. Le médecin généraliste est impliqué, les pharmaciens de plus en plus. Il vient d'être acté par un décret qui est paru il y a quelques mois qu'on n'était plus obligé d'être médecin pour pouvoir vacciner. Les pharmaciens peuvent aujourd'hui vacciner, les sages-femmes vont pouvoir aussi vacciner. Voilà toutes ces professions médicales et paramédicales qui sont impliquées et en lien avec le papillomavirus peuvent donner les informations utiles et renseigner les gens.
Donc nous, notre stand, c'est cancer et hérédité. Et moi, du coup, je suis conseillère en génétique à l'ICL et ma collègue aussi. Et du coup, le but du stand, c'est de faire comprendre un petit peu qu'il existe des cancers héréditaires et qu'il existe aussi des consultations pour justement savoir si du coup notre cancer est potentiellement héréditaire et que ça peut servir après derrière pour la famille pour mettre en place des moyens de prévention et de surveillance chez la personne qui a du coup ce cancer héréditaire, donc du sein ou de l'ovaire, et puis après derrière pour ses enfants ou ses frères et sœurs et puis ses parents, savoir de quel côté ça vient. Donc c'est un petit peu, et c'est par des questions et aussi divers défis pour faire les arbres généalogiques ou encore trouver les organes où il peut y avoir des prédispositions héréditaires, donc le sein, l'ovaire, les choses comme ça.
Et du coup, si on souhaite plus d'informations, est-ce qu'on peut se rendre pour s'informer?
Il peut y avoir Unicancer, hein, a pas mal renseigne pas mal d'informations. Après, je sais pas sur quel site autrement je vais aller. Sur l'INCa. Oui, l'INCa, effectivement, là, c'est ça que je cherchais. L'INCa, Unicancer, ou même ICL. Directement dans les instituts de cancérologie aussi. Dans les services d'oncogénétique aussi, ouais.
Du coup, nous, c'est Cheer Up Artem. C'est une association normalement nationale, mais qui a plusieurs antennes dans plusieurs écoles d'ingénieurs et de commerce. Pour nous, c'est l'école des mines de Nancy, à Artem. Et notre principale activité, c'est qu'on fournit un soutien psychologique aux patients atteints du cancer, surtout les jeunes entre 15 et 25 ans. Du coup, on intervient principalement au CHU de Brabois et on les aide à concrétiser leurs projets. Par exemple, en ce moment, on travaille avec une patiente qui veut partager son expérience avec le cancer dans une émission radio. Et on regarde maintenant ce qu'on peut faire pour que ça se concrétise. Aussi, on organise pas mal d'événements. Il y a la course contre le cancer qui arrive ce septembre. C'est principalement pour la collecte de fonds pour aider à la recherche contre le cancer. et pas mal d'événements aussi, l'Octobre Rose, le Movember. Donc on organise un don de cheveux dans notre école d'ingénieurs, une vente de repas ou de goodies pour financer nos différentes activités. Donc principalement, c'est du soutien psychologique. C'est une association d'étudiants. On a fait pas mal de formations avec une psychologue avant d'intervenir dans le CHU de Brabois. Pour accompagner psychologiquement tous ces patients.
Si on souhaite avoir plus d'informations sur Cheer Up.
Sur Cheer Up, du coup, il y a le compte Instagram cheerup-artem. Il y a toutes les infos, il y a toute l'équipe. Sinon, il y a aussi Cheer Up officiel. Ça, c'est le réseau national. Après, il y a plusieurs.
Vous pouvez épeler Cheer Up, s'il vous plaît.
Pardon ?
Vous pouvez épeler
Cheer Up. Artem, A-R-T-E-M.
Bon, bah, notre association est Symphonie, créée par des dames atteintes du cancer du sein en 2001.
Mais du coup, en quoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui ?
Bah, c'est important pour faire d'abord connaître l'association, et puis notre rôle est d'aider les personnes atteintes de ce cancer pendant qu'elles le sont, et de les soutenir pendant cette période délicate. Donc on est plutôt une écoute, un soutien. Et bon, on aide les personnes quand la maladie est déclarée.
D'accord. Et vous êtes basé où ? Comment on peut vous retrouver ?
Alors, on peut nous retrouver. Nous sommes rue Alexandre 1er à Saint-Max, au 75.
D'accord.
Rue Alexandre 1er à Saint-Max. Nous sommes à l'espace Champlain, qui est créé par Saint-Max et Maxéville. Hein. Et donc, ces deux villes ont laisser ce local. Alors nous accompagnons les dames souffrantes, nous avons des ateliers bien-être qui leur permettent d'être plus à l'aise pendant cette période. Nous avons des possibilités de sport telles que la marche, l'aquagym, de la gym en salle et également des activités culturelles telles que visites de musées, etc. Voilà. Donc nous avons pas mal de choses, également d'autres loisirs comme le cinéma ou des séances. Mais le tout, c'est d'être... Vous êtes toujours accompagné de bénévoles et donc ça permet aux dames d'avoir une écoute attentive quand elles en ont besoin.
D'accord. Et si y a une dame qui vous écoute et qui aimerait vous contacter, ça se fait comment ?
Alors, elles peuvent nous contacter par Internet ou par téléphone. Nous les avons Internet et notre téléphone d'ouvert. 24 heures sur 24 le téléphone, enfin presque. Hein. Et donc les dames peuvent nous contacter par téléphone ou venir à la permanence les mardis après-midi entre 14h et 17h. Voilà.
Moi j'ai trouvé ça super intéressant cette journée parce qu'on a pu apprendre de nouvelles choses malgré que ben, on avait quand même quelques connaissances parce qu'on avait des intervenants qui sont venus faire de la prévention. Mais on a appris de nouvelles choses. Par rapport au cancer du col de l'utérus, on connaissait pas. Mais franchement, c'est sympa parce que c'est drôle, c'est sous forme de petits jeux, c'est ludique, on passe de bons moments. Et puis voilà, enfin, moi j'ai bien apprécié cette journée.
D'accord, je peux rappeler ta section et ton
Sanitaire et social en ST2S à Charles de Foucault.
Du coup, c'est intéressant dans le cadre du programme de participer à ce village prévention parce que c'est exactement ce qu'on voit en cours. Et du coup, ça donne plus de réel à nos cours de les mettre en situation avec des professionnels et puis qui les rencontrent et voient la pertinence des différentes actions pour la lutte contre le cancer.
C'est donc, un cas pratique aussi.
Voilà, du moins c'est un cas pratique puis une découverte aussi. Du moins, nous on a beau dire des choses, quand c'est des professionnels qui le disent, c'est encore, c'est encore mieux, plus pertinent. Donc voilà.
RCN, complètement à l'Est, elle finit.
On se retrouve dans un instant pour découvrir la ludothèque Saint-Nicolas juste après I Like the Way You Kiss Me de Artemas.
I like the way you kiss me. I like the way you. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached.
Get all that you down.
complètement à l'est sur RCN.
La ludothèque Saint-Nicolas, c'est la ludothèque de la ville de Nancy. C'est gratuit, il n'y a pas d'inscription, pas de réservation. Sur place, on a plus de 2500 jeux directement disponibles pour jouer tout de suite. Et on a du jouet, du coup, ce qui fait qu'on a deux espaces sur place. Un espace jeu sur table et un espace sous les cabanes avec du jeu libre, donc avec du parcours de motricité, des jouets à manipuler, tout ça. On demande juste à passer au vestiaire pour poser ses affaires et ensuite les gens peuvent rester, il n'y a pas de souci. C'est limité à 45 minutes parce qu'il faut que ça tourne et qu'on a pas mal de monde. Après, au bout de 45 minutes, s'il n'y a personne, ils peuvent rester tout l'après-midi, c'est pas dérangeant. Et du coup, les ludothécaires sont là pour les aider, pour tout ce qui est mise en jeu, pour les aider à choisir. Des fois, les gens viennent juste pour du conseil, pour par exemple des cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Donc, on est juste là aussi pour les faire jouer, pour les conseiller un peu sur les jeux qu'ils veulent. Et voilà. Après, on a des actions culturelles qui sont quasiment toutes les semaines. Donc on a tout ce qui est fond de jeu, où on va présenter une thématique avec du coup notre fond de jeu et le mettre en avant. Et on va avoir aussi des événements comme par exemple la réouverture de la médiathèque il y a deux semaines, la semaine dernière. La réouverture où en fait on a carrément créé un jeu pour la réouverture. Donc là on a fait un jeu print and play, ça s'appelle. Donc en fait on va tous les imprimer et après les gens peuvent les fabriquer sur place et repartir avec. Et on va avoir aussi des spectacles, des intervenants. Donc là par exemple samedi dernier on a eu un spectacle de Ramirez et compagnie. Donc c'était un spectacle musical où il y avait beaucoup d'humour. Voilà, où ils reprenaient un peu toutes les différentes musiques qu'on peut avoir depuis les années 80 jusque maintenant. Et sinon, on va avoir aussi des auteurs de jeux qui viennent pour faire leur présentation de leur prototype de jeu. Et les gens vont pouvoir y jouer et pouvoir critiquer un peu ce qui va pas pour faire évoluer le jeu. Okay. Donc ça, c'est assez intéressant aussi pour les gens de rencontrer en fait les acteurs du monde du jeu. Voilà.
Il y a une limite d'âge pour venir ici ou
il n'y a pas du tout de limite, on accueille de 0 à 100 ans, franchement, il n'y a pas de problème. Il y a plein de résidences d'autonomie qui viennent et du coup, on les fait jouer pendant plus d'une heure, ils viennent, voilà. Il n'y a pas de souci. On peut venir tout seul aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des jeux qui se jouent tout seul. Donc non, il n'y a pas aucune restriction.
Et si on vient tout seul et qu'on a envie de jouer avec d'autres personnes, ça peut quand même se faire ?
Alors ça se fait, des fois les gens viennent et proposent aux autres gens qui sont là. Soit des fois nous aussi, si on est disponible et qu'il n'y a pas énormément de monde, on peut, on peut jouer avec eux, il n'y a pas de souci. S'il y a possibilité, pas de problème.
Et du coup, est-ce que vous pouvez juste préciser c'est où précisément au Saint-Sébastien ?
Ouais. Du coup, ça se trouve au premier étage du centre commercial Saint-Sébastien, en face d'Afflelou et d'Alice Délice. Voilà, faut pas hésiter à rentrer. Souvent, les gens nous prennent pour une librairie d'ailleurs, ou une bibliothèque. Donc non, il y a que des jeux de société, il y a pas de livres.
Vous êtes ouvert du coup du lundi au vendredi ou...
Alors non, on est ouvert le mardi, mercredi, vendredi, samedi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
D'accord. Même le samedi jusqu'à 18h.
Ouais. Okay. Ouais.
Alors du coup, à la question, est-ce que je viens souvent ? On vient quand on a l'occasion, souvent quand ma fille du coup n'a pas école.
Ouais.
Ce qui est bien ici, c'est la gratuité. Du coup, tout le monde peut venir et c'est très souvent disponible. Et il y a plein de jeux de société pour la famille, de cartes, de coopération. Et ma fille adore venir, du coup.
C'est juste les parents qui m'ont indiqué qu'au centre Saint-Sébastien, il y avait une ludothèque pour les enfants. Et voilà, comme c'est mercredi, je découvre avec ma petite fille.
D'accord, donc c'est pour sortir, passer du temps.
C'est pour sortir, passer du temps. Et elle aime les jeux de société. Et ici, bah, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour l'imagination, pour la découverte, pour tout, en fait.
Et le côté que ce soit gratuit, c'est avantageux.
Et le côté que ça soit gratuit, oui, bien sûr, c'est avantageux, oui.
Bah, c'est pour sortir du quotidien, donc c'est pour jouer avec toutes sortes de jouets, pour que lui découvre des nouveautés, parce qu'on n'a pas forcément la place à la maison, donc ici il y a beaucoup plus de place et il peut jouer librement.
D'accord, vous venez souvent ou c'est pas
bon ? Ça arrive de temps en temps, oui.
Oui, mais moi je suis la tante des enfants du coup, donc je connais pas du tout la ludothèque. C'était surprenant que ce soit dans un centre commercial, ça nous a surpris. Mais voilà, sinon c'est cool pour les laisser jouer un peu pendant que les parents sont pas disponibles et voilà, enfin ils s'amusent donc.
Vous venez souvent ?
Bah c'est la première fois.
Comment vous avez connu du coup la ludothèque ?
Bah c'est les parents qui m'ont dit de venir là, mais après je sais qu'il y a des ludothèques qui ont des espaces bébés comme ça. Mais Ouais, franchement, c'est les parents qui m'ont demandé de venir.
Et donc c'est bien quand on voit les enfants ici.
Oui. Bah, il y a plein de jeux. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des jeux à partir de 2 ans. Ça, c'est trop bien parce que je trouve que c'est pas évident d'avoir des jeux comme ça à jouer avec les tout-petits. Et puis les espaces comme ça où ils sont libres et il y a plein de jeux accessibles, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Franchement, ils sont contents.
Nous, ça fait depuis l'ouverture de la ludothèque, ça fait déjà quelques années qu'on vient.
Ouais.
Les filles, elles adorent venir parce qu'il y a plein de jeux, elles aiment bien tester tous les nouveaux petits jeux. Puis elles rencontrent des copains, souvent on rencontre les mêmes personnes. Ouais, c'est vraiment agréable. Puis le personnel, franchement, ici, ils sont super sympas, super gentils. Il y a aussi les jeux sur table.
Ouais.
Donc ça, c'est sympa aussi pour tester.
Vous y venez souvent?
On n'habite plus à Nancy-Centre, donc avant, quand on habitait à Nancy-Centre, franchement, on venait deux fois par mois, je pense. Et maintenant, maintenant, on essaye de venir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, comme on n'est plus sur Nancy. Mais,
Donc c'est un lieu agréable pour amener les enfants, même pour les grandes personnes
Ah, complètement.
Okay.
Franchement, c'est vraiment agréable comme endroit. Moi, j'adore. Je trouve ça super.
Merci beaucoup.
RCN, complètement à l'Est, elle fait nuit.
On se retrouve dans un instant avec notre invité de la semaine, juste après Music & Me de Nat Dogg.
Hey, OG, could you tell me how to find some good weed? I need it on me, oh, so bad. That last bag was the best weed I ever had. Bass, so deep, I can't even seem to feel my feet. Girls, so fine, I can't help it, got to make this one mine. I hit 'em with my bass, Sterling. Can't separate my music from me.
Music
and me.
Music
and me.
Music
and me.
Music.
My music and me.
Time does change. I hit 'em with the music from the slaves. Oh my goodness, what my ancestors gave. I don't want you to think I don't know. They taught me how to reach deep down and touch the soul. Without my music, where would I be? You taught me how to cry and still remain a G. You keep a lot of soldiers at ease. And together, the next level, we'll see. My music and me. Music
and me.
Music
and me.
Music
and me.
Music
and me. My music and me.
Music and me go together, perfect harmony. Soft and mellow, oh, so hard it'll make your speakers explode. Stay with me, and together we will live out this dream. Music and me.
Music.
Music
and me.
Music
and me.
Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine.
On se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité de la semaine, Christelle Marchal, chargée de recrutement au Mercato de l'Emploi, c'est bien ça?
C'est ça, tout à fait.
Comment vas-tu?
Très bien, je te remercie.
Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui?
Alors, je suis donc chargée de recrutement. Mm-hmm. Je suis vosgienne d'origine. Ouais. J'ai exercé mon métier dans un cabinet comptable pendant à peu près 20 ans dans les Vosges. Et je suis arrivée à Nancy il y a à peu près 7 ans.
D'accord.
J'ai exercé le métier d'assistante RH dans une entreprise sur le secteur de Nancy. Mmh. Et puis, j'ai découvert le métier du recrutement au sein de cette entreprise.
D'accord. Donc là, tu me dis, tu as fait du recrutement, tu as toujours fait ça ou tu as fait autre chose avant?
Alors avant, non, j'ai fait, j'ai travaillé dans un cabinet comptable où je gérais à peu près 350 payes par mois sur un portefeuille de 70 clients, donc multiconventionnel. Okay. Et aujourd'hui, ça m'aide au quotidien dans mon métier, puisque le code du travail, la législation du travail, c'est des choses que je peux mettre en avant lorsque j'échange avec un chef d'entreprise.
D'accord. Et du coup, quand tu étais chargée, comment ça s'appelait ton métier d'avant?
Gestionnaire de paye.
Gestionnaire de paye. Est-ce que c'était un truc que tu voulais déjà faire ou ça t'est arrivé comme ça
J'ai toujours voulu travailler dans le RH, on va dire, depuis toujours.
Ouais.
Donc, j'ai eu cette opportunité-là de faire de la paye. Alors, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas réellement de diplôme de gestionnaire de paye, contrairement à maintenant. Donc, je suis arrivée dans le cabinet comptable novice, on va dire, et j'ai été formée sur le tas. Et ça m'a beaucoup plu.
Et donc, d'être formée sur le tas comme ça, sans avoir de diplôme, ça t'a pas dérangé ou t'as aimé justement?
Alors, j'avais un diplôme dans la comptabilité, mais pas de diplôme dans la ressources humaines, dans les payes proprement dit. Okay. Ça n'existait pas réellement à l'époque, contrairement encore, comme je disais tout à l'heure, à aujourd'hui.
Ok, donc c'était toi qui t'occupais des salaires quand ça arrivait en retard, c'était toi et tout?
C'est ça.
Parce qu'on a toujours une petite haine contre les gens qui versent en retard les salaires.
Alors, c'est pas toujours lié aux personnes qui font les payes. Ça peut aussi être lié aux chefs d'entreprise qui font pas les virements à temps.
D'accord, ok. Ok, bon, c'est pas forcément de ta faute.
Non.
Et du coup, comment ça se passait en tant que gestionnaire de paye
En fait, mes clients me transmettaient les heures de leurs salariés.
Ouais.
Et moi, derrière, je les retranscrivais sur un logiciel de paye en veillant à ce que le code du travail, la législation du travail, les règles de droit social soient respectées.
Ok. Et c'est quoi qui doit être respecté justement dans toutes ces règles, par exemple?
C'est le nombre d'heures mensuelles, par exemple, le nombre d'heures hebdomadaires à respecter, les heures supplémentaires à payer, veiller au temps de pause, selon les conventions collectives. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le code du travail est très complexe, il y avait beaucoup de choses à penser et à vérifier avant de pouvoir valider un bulletin de paye.
Ok, parce que oui, c'est compliqué. Justement, il y a quand même beaucoup de choses à compter. Les personnes qui ne prennent pas forcément leur pause, les retards, des trucs comme ça, tout ça
c'est
doit
ça.
Être...
C'est ça, tout à fait, ouais.
Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, après tout cela, comment tu as fait pour te retrouver aujourd'hui en tant que chargée de recrutement?
En fait, j'ai voulu changer de voie. Je pense que j'avais fait le tour de mon métier dans un cabinet, même si le code du travail évolue en permanence.
Ouais.
Mais j'avais envie de voir autre chose et j'avais surtout envie d'être au cœur des entreprises.
Okay.
Dans mon métier de gestionnaire de paye, j'avais effectivement une soixantaine de clients, mais je n'étais pas au centre de mes clients et de mes entreprises.
Okay.
Je ne savais pas réellement le métier pour lesquels je faisais les payes, par exemple. Et j'avais envie, en fait, d'avoir une seule et une seule entreprise à gérer avec ses salariés.
Okay.
Donc, j'ai eu une opportunité de trouver un emploi dans une entreprise de 200 salariés sur le secteur de Nancy.
Okay.
Et c'est comme ça que j'étais donc assistante RH, où là, j'ai pu voir d'autres facettes de mon métier de gestionnaire de paye. J'étais plus proche, en fait, des salariés.
T'as pu quand même faire de la gestion de paye aussi en tant qu'assistante RH?
Oui, en fait, je faisais la paye des salariés de cette entreprise-là, mais je faisais également tout ce qui touche à la tenue de leurs congés payés, répondre aussi souvent à leurs questions.
Okay.
Quelquefois, les bulletins de paye n'étaient pas réellement compris, donc j'étais vraiment là, dans cette entreprise-là, pour être le lien, on va dire, entre entre la hiérarchie et puis les salariés.
Ok, donc au final, tu voyais un peu plus en profondeur ton métier de gestionnaire
tout
de
à
paye
fait,
et tu étais un peu plus proche des personnes dont tu t'occupais. Quoi.
C'est ça.
Donc tu préférais plutôt ce côté-là qu'autre chose.
J'avais beaucoup plus de relations humaines qu'auparavant.
Ok, donc oui, cette relation humaine, c'est ce que tu cherches un peu à chaque fois dans, dans ton travail
aujourd'hui, au quotidien, oui, c'est ça. C'est ce qui m'anime, en fait, oui, tout à
D'accord.
fait.
Et du coup, comment, là, parce qu'aujourd'hui, tu gères une entreprise toute seule, comment t'es passé donc de cette entreprise-là où tu travaillais et maintenant à avoir ta propre entreprise?
Alors, en fait, l'entreprise dans laquelle je travaillais fabriquait des emballages ménagers, des sacs poubelles. Et le Covid arrivant, on a utilisé cette gaine pour fabriquer les sacs de poubelle. On a modifié un petit peu le process de fabrication.
Okay.
Et on a créé des blouses et des manchons pour les hôpitaux.
D'accord.
Et le corps médical. Donc, Covid étant présent, énormément de charges de travail, énormément de production à faire et manque de personnel.
Okay.
Donc, il a fallu faire du recrutement. Et j'étais la seule personne physiquement sur place parce que les autres personnes étaient en télétravail, qui pouvaient réaliser ces recrutements.
Okay.
Et c'est un petit peu comme ça que je me suis mise dans le recrutement. C'est une facette de mon métier, en tout cas, qui me manquait.
Ok. Et donc, encore une fois, tu n'étais pas forcément formée au recrutement, mais tu t'es formée toi-même ou on t'a formée?
Alors, je me suis formée moi-même dans cette entreprise-là et je me suis formée ensuite quand j'ai rejoint le réseau du Mercato de l'Emploi. J'ai eu une formation à mettre en place avant de pouvoir exercer mon activité.
Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Mercato de l'Emploi?
Oui, bien sûr. Donc, le Mercato de l'Emploi, en fait, c'est un réseau national de 500 recruteurs indépendants, comme moi. On est présent partout en France. Ça représente à peu près 70% de femmes dans ce réseau. Et on est 80% de néo-entrepreneurs.
Okay.
Donc en fait, beaucoup de personnes qui rejoignent ce réseau créent leur entreprise pour la première fois et dont j'en fais partie.
Ok. Et donc, en quoi, toi, ça t'aide aujourd'hui de faire partie justement du Mercato de l'Emploi?
La marque, le réseau du Mercato de l'Emploi, c'est une enseigne, c'est une marque qui est connue et reconnue dans le monde du recrutement. J'ai les outils aussi qui m'aident à travailler de façon optimum. Et j'ai aussi la présence de tous les recruteurs.
Okay.
On est un vrai réseau, donc on s'entraide et on est présent, comme je le disais tout à l'heure, partout en France. Donc voilà, on a vraiment cette notion d'entraide au sein du réseau.
Donc ça permet aussi pour ton entreprise à toi de la faire un peu plus connaître, de la mettre un peu plus en avant?
Oui, parce que je ne pourrais pas exercer mon métier sans avoir un réseau qui m'accompagne ou sans avoir une enseigne qui est reconnue encore une fois dans le monde du recrutement.
D'accord. Et du coup aujourd'hui, dans ton rôle du coup, de chargé de recrutement, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais au quotidien?
Eh bien, en fait, mon objectif, c'est d'accompagner les entreprises qui sont en recherche de personnel pour faire évoluer, pour faire croître leur entreprise. Mon métier, ça va être ça. Ça va être de trouver des entreprises qui veulent faire appel à des personnes externes, à des professionnels du recrutement pour pouvoir leur trouver leur collaborateur, leur pépite et leur mouton à cinq pattes, j'ai envie de dire.
D'accord. Du coup, je te disais, hors antenne, ça fait un peu comme une mini intérim. T'es un peu comme une intérim, mais... Tu m'as dit que c'était plus pour des longues durées de contrat.
Oui. Alors moi, c'est ça. Je ne suis pas du tout un cabinet ou une agence intérim.
Ouais.
Je fais du recrutement sur des contrats pérennes. Donc, sur du CDI ou alors potentiellement sur du CDD à longue durée.
Ouais.
Mais j'avoue que voilà, toutes les missions que j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui étaient sur du CDI et pas d'intérim.
Ok, on va pouvoir parler plus en profondeur de ton métier. On va pour l'instant écouter un petit son. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on écoute aujourd'hui comme musique?
Eh bien écoute, j'aimerais bien qu'on écoute Ilia de Amir et Jason Derulo.
Parfait, écoutons ça.
Merci.
Ilia, Jason Derulo. La vie défile, mais qu'est-ce que je fous là? Risque tactile et dans mes doigts. La peur se glisse, volant au bout des bras, toujours en lice, du moins je crois. Oui, je te jure, j'ai vécu comme j'ai aimé à toute allure, sans compter. Oui, je t'assure, j'ai vécu comme je roule, droit vers l'amour et vers la foule.
falling out of love, falling right back in it on the nights I had too much. Yeah, trying to break these codes. Then I text you 3 a.m. I'm psycho, lock me up. Yeah, didn't think about you at all tonight. Till they play that French song you like. Ilia, Ilia, sur mon cœur, un fond de moi, des mauvais pas. Ilia, Ilia, des jaloux, c'est dans les ailes qu'on déploie. Ilia, Ilia, cette force qui me dit va vite, viens. Prochaine fois, ne freine pas. Je vois l'aiguille au compteur et mon cœur se serre. Coule ta sueur, excuse-moi mais j'accélère. You say you don't love me, baby, you say you don't care. But every time that we together, we end up in underwear. Il y a, il y a, ce moteur au fond de moi ne m'en veut pas. Il y a, il y a,
il y a,
déjà le ciel dans les ailes qu'on déploie.
À l'Est sur RCN, l'invité de la semaine.
Aujourd'hui, nous sommes avec Christelle Marchal et on découvre un peu plus son métier donc, de chargée de recrutement. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu aujourd'hui, quand une entreprise n'arrive pas à recruter, comment faire appel à la bonne chargée de recrutement ? Comment t'appeler justement ? Comment te joindre ?
Ah ben, on peut me joindre. Donc, je suis présente sur LinkedIn,
ouais.
Donc Christelle Marchal. Mmh. J'ai effectivement une entreprise et j'ai un numéro de téléphone professionnel
ouais.
que je peux donner. Oui.
Moi, non, on pourra oui. le donner à la fin, il n'y a pas de souci.
Voilà.
Mais du coup, aujourd'hui, comment tu fais pour donc, justement trouver tes clients, les grandes entreprises que tu recherches pour les aider à recruter ?
Alors aujourd'hui, donc, une entreprise sur deux affirme avoir réellement des difficultés pour recruter. Donc le travail, il y en a.
Ouais.
Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Mmh.
Il faut juste que les entreprises prennent conscience de faire appel à des professionnels du recrutement. C'est un vrai métier.
Ok.
Et je suis là en fait pour leur faire prendre conscience que ils n'ont pas forcément les outils nécessaires pour pouvoir recruter correctement.
Ouais.
Et au-delà des outils, ils n'ont peut-être pas non plus le temps
mmh.
d'accorder ce temps-là justement au recrutement.
Mmh.
Et c'est là que j'interviens.
D'accord. Et du coup, quand tu interviens, comment ça se passe ? Est-ce que tu vas vers les personnes que tu cherches à recruter ou c'est les personnes-là qui viennent à toi ? Comment ça se passe de ce côté-là ?
Alors, la priorité, en fait, c'est d'intervenir pour les entreprises.
Ouais.
Donc, ils font appel à mes services parce qu'ils ont besoin de s'entourer d'un nouveau collaborateur.
Mmh.
Et c'est là où moi, j'interviens. Donc, je vais les rencontrer. Ça,
ouais.
c'est vraiment la priorité des priorités.
Ouais.
Je ne peux pas travailler avec un client ou avec une entreprise si je ne l'ai pas rencontré.
Ok, tu vas vraiment voir le patron de l'entreprise
ouais.
et tout. Tu as déjà un contact avec cette ouais. personne-là. Quoi.
J'ai besoin, en fait, de... déjà, je peux pas placer un candidat si mmh. je ne sais pas le métier qu'il va exercer.
Okay.
Si je ne sais pas dans quel environnement il va évoluer.
Ouais.
Donc, j'ai besoin de connaître l'entreprise. J'ai besoin d'échanger avec le chef d'entreprise. De ressentir son ADN.
Mmh.
Et c'est ce qui me permettra, moi, ensuite, de pouvoir trouver la personne qui matchera avec ce chef d'entreprise.
Ok. Et du coup, cette personne-là, justement, qui va matcher avec l'entreprise, comment tu la trouves ? Comment tu la sélectionnes ?
En fait, grâce au réseau du Mercato de l'Emploi, je le
ouais.
disais tout à l'heure, j'ai des outils qui me permettent de faire des multidiffusions d'annonces.
Ok.
Donc, je diffuse sur une dizaine de sites.
Mmh.
Ce qui me permet une grande visibilité Et qui dit grande visibilité dit un maximum de candidats qui postulent.
Okay.
Aujourd'hui, le constat, c'est que la plupart du temps, les entreprises qui veulent recruter par eux-mêmes n'ont pas suffisamment de candidats parce que n'ont pas les outils nécessaires justement pour avoir ces candidats.
D'accord.
Donc moi, grâce à ce réseau du Mercato de l'emploi, j'ai ces outils-là qui me permettent d'avoir un nombre important de candidats qui vont postuler à mes annonces.
Okay.
Et au-delà des candidats qui postulent, j'ai également accès à des CV Tech qui me permet aussi de puiser dans un vivier de CV qui peut souvent, en tout cas, s'avérer être intéressant.
Ok. Et du coup, si là, demain, tu publies une annonce et que, par exemple, je la vois, comment on se rencontre, comment ça se passe pour faire l'entretien, justement ?
En fait, ça se passe en deux temps. C'est-à-dire que, en fonction des candidats qui postulent à mes annonces, je vais déjà faire de mon côté une présélection via le CV.
Oui.
Parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de candidats qui postulent sur des offres qui ne sont pas du tout en adéquation avec leur expérience, avec leur métier. Dès que j'ai un candidat, en tout cas qui est intéressant et qui répond à de nombreux critères, j'ai un échange téléphonique dans un premier temps avec lui. Je vais lui poser des questions, notamment sur le salaire.
Oui.
Il faut que voilà, sa prétention salariale soit réellement en adéquation avec mon offre d'emploi. Et puis quelques autres questions. Et dès que j'ai validé ces points-là, je souhaite m'entretenir avec lui, mais de façon physique.
Okay.
Mes entretiens, je les fais en physique avec mes candidats.
Et quand tu les fais en physique, comment ça se passe? Parce que là, vu que tu travailles tout seul, tu as des locaux ou ça se passe comment?
Alors, je travaille de chez moi.
Oui.
Par contre, mes entretiens, évidemment, je ne les fais pas à la maison.
D'accord.
je reçois en fait mes candidats dans les lieux publics.
Ok.
L'idée, c'est de désacraliser un petit peu ces entretiens qui souvent... Sont du stress pour des candidats et moi mon rôle c'est vraiment d'avoir un ressenti sur ces candidats et avoir leur détecter chez eux leurs soft skills donc pour les mettre les plus à l'aise possible autant les mettre dans des endroits où il y aura cette proximité là et je trouve que les cafés, les restaurants sont des lieux qui sont appropriés pour avoir un vrai échange.
D'accord, donc là, à tout moment, on peut te voir dans un café, un restaurant, en train de faire un recrutement.
Oui, ça peut être possible, tout à fait.
D'accord, bah justement, c'est bien, au moins, comme tu disais, c'est vrai que quand on va en entretien, on est souvent stressé, souvent on ne sait pas comment ça va se passer, à qui on va avoir en face, et donc là, le fait d'avoir un peu ce côté informel du travail, c'est vrai que ça peut détendre un peu l'atmosphère.
Complètement. Complètement, et tous les candidats que j'ai pu avoir en entretien me le disent à l'issue de l'entretien qu'ils ont passé un bon moment.
D'accord.
Et que c'était une réelle découverte pour eux parce que souvent ils sont accueillis dans des grands lieux, des grands bureaux un petit peu plus informels et là l'échange est beaucoup plus constructif.
Mais parce que c'est sûr, si on se fait accueillir dans de grands bureaux, ça impressionne directement.
C'est ça.
Y a ce côté de la grandeur, alors que là, si on va dans un petit café, un restaurant, ça crée une petite proximité au final.
C'est ça, tout à fait. On est au même niveau, en fait. Il n'y a pas de niveau candidat, il n'y a pas de niveau recruteur. On est vraiment au même niveau. On boit un café et on échange.
D'accord. Et du coup, à l'issue de tout ça, si la personne est sélectionnée, c'est l'entreprise directement qui traite après ou toi, tu es encore dans le processus ?
Alors moi, je suis toujours dans le processus, c'est-à-dire qu'à l'issue de cet entretien avec le candidat, je vais faire un compte-rendu écrit à mon client. Je vais envoyer donc ce compte-rendu-là, son CV. Je vais échanger aussi avec mon client. Je passe beaucoup de temps et j'attache beaucoup d'importance sur des échanges avec mes clients. Je ne les vois pas qu'une seule fois. Je les vois peut-être physiquement une seule fois, mais je les ai en contact permanent pour leur expliquer en tout cas l'avancement que j'ai sur leur processus de recherche. Et une fois que j'ai envoyé donc tous ces documents-là au chef d'entreprise, évidemment, c'est lui qui a le dernier mot et qui me dit « Ok, Christelle, moi je pense que ce candidat-là, j'ai envie de le recevoir. Donc, je les mets en relation. Et derrière, évidemment, c'est le client qui me dit, au final, oui, vous m'avez trouvé la pépite. Donc, je vais l'embaucher.
D'accord. Donc, tu es quand même là dans tout le processus jusqu'à la fin, qu'ils soient employés, quoi. Enfin, qu'ils soient recrutés.
Et pas que. C'est-à-dire que j'interviens encore après que la personne ait pris son poste.
Okay.
C'est-à-dire que... pour moi, le onboarding est quelque chose de très important.
C'est quoi le onboarding ?
Alors, le onboarding, en fait, c'est le processus d'intégration.
Ok, ah oui.
Aujourd'hui, une personne qui est intégrée dans une entreprise, pour que le, on va dire que l'issue se passe de la meilleure façon possible, il faut que l'intégration se fasse dans de meilleures conditions.
Oui.
Donc en fait, dès qu'un candidat intervient et est embauché chez une de mes entreprises, à l'issue de la première semaine, j'ai un échange avec le candidat pour voir comment s'est passée son intégration.
D'accord.
Et je fais un compte-rendu au client et je demande également à mon entreprise, à mon chef d'entreprise, comment il a vécu cette première semaine avec cette nouvelle personne, ce nouveau collaborateur.
Ok, bah, je ne savais pas du tout qu'il existait des choses comme ça. Et bah, au final, ça doit être bien que ce soit pour l'entreprise ou même pour le client, pour la personne qui s'est fait recruter, de moins stresser encore parce qu'elle a suivi. Il y a ce côté-là où elle peut se plaindre ou en tout cas dire les choses qui ne lui conviennent pas, quoi.
C'est ça, c'est une vraie plus-value en tout cas. C'est un vrai service qui est vraiment apprécié aussi bien des candidats que des chefs d'entreprise.
Okay.
Parce que voilà, je suis effectivement recruteuse, mais ça ne s'arrête pas à ça en fait. Okay. Je ne fais pas que le recrutement, je m'assure derrière que les personnes en poste sont là pour les bonnes raisons.
D'accord.
Et mon objectif, c'est au-delà de trouver un candidat pour un chef d'entreprise, c'est aussi changer les vies de mes candidats et les faire changer en mieux.
Ok, bah justement, oui, tu disais que là, c'est pour de longues durées, donc c'est vrai que le fait que tu sois encore là, ça permet en tout cas de ramener dans ce processus-là, de son changement de vie, qu'il y ait une personne qui soit à côté, quoi.
C'est ça, tout à fait, ouais, c'est important.
Et du coup, après tout cela, comment tu fais pour trouver justement les entreprises que tu vas aider à envoyer des clients, enfin des personnes à recruter ?
Eh bien en fait, c'est mon métier aussi de commercial.
Ouais.
Au-delà de mon métier de chargé de recrutement, quand on est né entreprise, quand on est seul, solo, on a toutes les casquettes.
Ok.
On a la casquette du commercial, du community manager, du comptable... et puis de la personne qui fait réellement son métier, donc mon métier de recruteuse. Donc, je fais de la prospection, je fais partie de différents réseaux professionnels, j'assiste à des conférences, je fais des after-work. En fait, l'idée, en fait, c'est de vraiment me faire connaître et surtout faire connaître mon métier et expliquer mon métier.
Et c'est pas compliqué, là, en tant que néo-entreprise, d'être seul à faire tout ça, ou c'est quelque chose qui te plaît, au moins tu sais que tu gères tout ce que tu as à faire.
Alors, c'est nouveau pour moi, hein, puisque j'ai toujours été salarié jusqu'à ce que je crée mon entreprise. En revanche, c'est quelque chose qui me plaît et qui m'éclate au quotidien.
D'accord.
C'est énormément de travail, mais j'attache beaucoup d'importance sur l'humain. Et j'aime profondément les gens.
Okay.
Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de... Comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire changer les vies à des candidats et aussi à des chefs d'entreprise. Parce que bah voilà, si je suis là pour leur trouver leur bon collaborateur, ça va pouvoir leur permettre aussi de passer du temps sur leurs vraies tâches et pas sur des tâches à faire les entretiens, à faire le recrutement, à faire les annonces.
D'accord. Mais au final, dans les entreprises, justement, il y a quand même un RH. Logiquement, il y a un RH qui s'occupe des recrutements.
Oui, alors je peux travailler en partenariat avec la personne qui est au RH.
Okay.
J'ai la chance avec le mercato de l'emploi d'avoir différentes formules. Et j'ai envie de dire que j'ai une formule qui va s'adapter à tous les besoins de mes entreprises.
D'accord. Et du coup là, en tant qu'une personne qui travaille seule, quand est-ce qu'à quel moment tu quittes le côté formel du travail, en fait, quand tu travailles seul, surtout que tu travailles chez toi, il n'y a personne pour te dire « arrête de travailler, c'est la fin de la journée ».
Alors, la personne qui va me dire d'arrêter de travailler, ça va être ma fille.
D'accord.
Parce qu'elle va me dire « maman, il est 20h,
ah, okay.
qu'est-ce qu'on mange ?»
D'accord.
C'est le risque, on va dire, de travailler de chez soi, c'est que bah, voilà, la vie privée, la vie pro, on peut la gérer comme on le souhaite, évidemment, puisque voilà, je suis chef d'entreprise, donc je gère mon emploi du temps comme je le veux. Mais à contrario, c'est compliqué de couper parce que je suis happée par mon ordinateur, parce que mon téléphone portable pro n'est jamais coupé.
Ouais.
Donc,
Donc là, à tout moment, à 21h, il y a quelqu'un qui vous appelle. Ah, demain, j'aimerais bien postuler.
Alors, à 21h, c'est très rare. En revanche, il m'est arrivé de faire des entretiens à des candidats à 19h.
Ah, ok, d'accord. C'est quand même tard.
Bah, c'est tard, mais en même temps, c'est plus facile parce que les candidats sont chez eux. Ils sont plus sur leur lieu de travail. Hein, parce que quelquefois, j'ai quand même souvent des candidats qui sont en poste et qui veulent changer d'entreprise parce qu'ils veulent évoluer, parce qu'ils veulent changer de carrière, etc. Donc, pour pouvoir les avoir en ligne, eh ben, ça va être le soir quand ils ont fini leur travail. Donc,
Au final, ça reste comme un avantage, parce que c'est vrai que là, comme tu dis, souvent on travaille jusqu'à 17-18 heures. Et donc, si on peut te contacter un peu plus tard...
J'ai pas de barrière, en fait, avec les horaires.
Ok. Et du coup, aujourd'hui, une personne qui travaille seule comme ça, ou une personne qui aimerait travailler seule, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Enfin, plutôt une personne qui aimerait travailler seule.
Eh bien, en fait, il faut tenter l'aventure. C'est une vraie aventure, être chef d'entreprise. Alors, ce n'est pas simple tous les jours, hein, il ne faut pas se mentir. Parce que c'est une grosse charge de travail, c'est une grosse charge émotionnelle. Mais qu'est-ce que ça peut apporter comme point positif et comme fierté de se dire que je suis chef de mon entreprise. Et ça, c'est une fierté.
D'accord. Et justement, en tant que chef d'entreprise tout seul comme ça, c'est toujours bien d'être entouré, d'avoir un bon réseau pour pouvoir montrer son travail ou comment ça se passe quand on est seul comme ça ?
Eh bien en fait, je suis seule sans être seule. Parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'appartiens donc au réseau du Mercato de l'Emploi, on est à peu près 500. Alors j'ai pas la prétention de dire que je connais les 500 recruteurs, mais j'en connais un certain nombre. Et j'ai des échanges très réguliers avec eux. On parle de nos problèmes, on parle de nos difficultés, on parle de nos réussites. Et on se rend compte que finalement, on rencontre tous les mêmes problématiques chaque jour.
Donc au final, ça peut te détendre sur ton boulot à toi et te dire que je ne suis pas la seule à faire comme ça.
C'est ça.
Il y a d'autres personnes qui font ce métier-là comme ça.
C'est ça. Et puis on échange aussi sur nos façons de travailler parce qu'on va dire que chaque personne est unique. Et on prend les idées des uns et des autres et ça nous permet de grandir aussi.
D'accord. Donc c'est une très bonne expérience pour toi.
Très belle expérience, très enrichissante.
D'accord.
Et ça correspond finalement à ce que j'ai toujours voulu faire.
Ok, bah parfait. Bah justement, toi qui cherchais un peu de la proximité avec les gens, là, c'est vrai que c'est vraiment le métier qu'il te fallait.
Ouais, c'est ça, absolument. D'accord. C'est ça, l'humain. J'ai envie de dire, le recrutement aujourd'hui, enfin en tout cas, mon objectif, c'est de recentrer l'humain sur le recrutement, sur ce métier-là.
D'accord. Oui, au final, les gens qui vont travailler ensemble, qu'il y ait une certaine proximité, pas une hiérarchie entre eux, quoi.
C'est ça.
D'accord.
Tout à fait.
Et du coup, nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux, te contacter, ton numéro professionnel pour qu'on t'appelle à 21
Alors, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, donc sur mon nom, Christelle Marchal. Mon numéro de téléphone est le 06 50 53 52 64.
D'accord.
Et j'ai le petit mot de la fin. Je ne sais pas si c'est l'heure.
Dis-moi le mot
de
la fin, justement.
ça va être un petit peu ce qui me caractérise. Et j'ai envie de dire que votre recrutement est vital. Pensez Christelle Marchal.
Parfait, j'applaudis. Voilà. Franchement, parfait. Merci beaucoup. On peut terminer directement à la parfait.
Merci.
Je te remercie en tout cas, Christelle,
d'être
là aujourd'hui.
Merci pour l'invitation, Ellie.
De rien. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Complètement à l'Est.